Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude, et comme il a été dit tout à l'heure, nous arrivons à la fin de notre étude suivie de cette petite lettre. Et nous allons lire les versets 24 et 25. Jude, versets 24 et 25, et voici la parole de Dieu. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Quand on lit une belle histoire, ou un bon livre, il y a quelque chose de très satisfaisant quand on arrive à la fin, quand on arrive à la conclusion, surtout quand la conclusion est bien écrite, on arrive au dénouement, quand tous les fils sont rattachés, quand les intrigues sont complètes, quand les lacunes sont comblées, quand l'énigme est finalement résolue. Et tout cela apporte une grande satisfaction au lecteur. Quand un auteur fait cela avec succès, quand il le fait d'une manière brillante, cela pousse le lecteur à s'attarder, à contempler, à voir comment l'auteur a procédé pour que tout cela, toute l'histoire soit merveilleusement bien, tout cela soit bien imbriqué pour arriver à une telle conclusion. La fin d'un livre, le dénouement, peut être quelque chose de mémorable. Et on peut s'en rappeler pendant longtemps. Et Jude conclut donc sa lettre, sa petite lettre, d'une manière très mémorable. Il le fait en dirigeant notre attention vers le ciel, dans une, ce qu'on appelle une doxologie magnifique. Cette doxologie de Jude est l'une des portions de la parole de Dieu qui est sans doute la plus majestueuse. C'est la partie la plus reconnaissable de cette lettre de Jude. Et le but de cette doxologie, c'est de nous pousser à nous attarder avec satisfaction sur le sujet de cette doxologie, à savoir Dieu lui-même, et à l'adorer. Jude termine ce livre en dirigeant notre attention sur la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans le salut de son peuple. Et c'est la conclusion de son livre. Tout ce que Jude a écrit auparavant nous conduit à cette conclusion. À Dieu seul soit la gloire, ou pour utiliser le langage, la formule qui a été prononcée au temps de la Réforme au XVIe siècle, soli deo gloria. À Dieu seul la gloire. Et ce matin, nous allons regarder cette doxologie en trois parties. Tout d'abord, Jude parle de notre préservation jusqu'à la gloire. Ces deux versets, 24 et 25, comme j'ai dit, forment une doxologie. C'est une des plus longues doxologies de la Bible. Et quand on a une doxologie, on retrouve quatre éléments de base. Il y a celui à qui la louange est adressée. Il y a le genre d'honneur ou de louange qui est rendu, la durée ou l'étendue de cette louange, et une conclusion, une affirmation sous la forme d'un amen. Et une doxologie peut être aussi basique que « à Dieu soit la gloire pour toujours, amen ». On a les quatre éléments. Mais là, Jude développe et il élargit merveilleusement bien ces quatre éléments pour notre bénéfice spirituel à tous. Et en fait, quand on regarde le verset 24, à lui seul, est une description détaillée du premier élément de la doxologie, à savoir à qui cette doxologie est adressée. C'est une description de la personne à qui cette louange est adressée. Et Jude nous donne une longue description de Dieu à qui toute louange, toute gloire est due. Et cette description, en particulier dans le contexte de la lettre de Jude, donne aux croyants un espoir et une confiance incroyable. Tout au début de la lettre, rappelez-vous, on a vu l'urgence qui animait Jude d'informer ses lecteurs au sujet de ce danger imminent qui les guettait suite à l'infiltration de ces faux enseignants qui avaient perverti la grâce en dérèglement. Il ne s'agissait pas d'une question secondaire sur laquelle les croyants pouvaient être en désaccord. Non, c'était quelque chose de vital, c'était la perversion de l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et tomber dans cette erreur pouvait avoir des conséquences graves pour l'Église, mais aussi des conséquences éternelles. Un croyant qui accepte ce faux enseignement en pensant être en règle avec Dieu se retrouve en fait toujours sous la colère de Dieu. Et certains dans l'Église avaient déjà commencé à être influencés par cette erreur. Et Jude n'a pas mâché ses mots. Il a utilisé un langage au vitriol parfois pour avertir ces gens de la nature, du danger, des conséquences de tomber dans cette erreur. Et pour contrer cette erreur, Jude appelle les croyants à combattre pour la foi. Et cet appel a culminé dans ce commandement au verset 21 de se maintenir dans l'amour de Dieu, de persévérer jusqu'à la fin. Et après tout ce que Jude nous a dit au sujet du danger et au sujet de notre devoir de combattre pour la foi et de persévérer dans la foi, il termine sa lettre en nous disant « Maintenant, laissez-moi vous renvoyer au pouvoir et à la puissance de Dieu. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. » Un commentateur dit à la fin, Jude tourne les yeux vers Dieu, sachant que Dieu est celui qui protégera, qui purifiera les croyants, afin qu'ils soient remplis de joie au dernier jour. Ce langage de préservation, c'est le langage en fait de protection. C'est l'idée de protéger quelqu'un pour l'empêcher d'être enlevé, pour le protéger de tout danger. En Jean 17, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ prie pour son peuple et il rappelle à son Père ce qu'il a fait pour ses disciples. Jean 17, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » C'est le même langage. Garder, préserver. Paul, en 2 Thessaloniciens 3, verset 3, dit ceci, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Voilà, c'est le même langage. Quand Jude parle et écrit à celui qui peut vous préserver, il utilise le langage de la protection divine. Il parle que Dieu protégera. Un commentateur dit, « Jésus sera le gardien suprême de nos âmes. » Et nous pouvons être sûrs qu'il ne nous fera aucun mal. Rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Et il y a plusieurs cantiques, mais j'ai pensé à ce cantique 240 de Dieu l'amour éternel, où la quatrième strophe dit ceci, « À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort, ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie, que le monde soit détruit, que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. » Jude utilise donc ici le langage de la puissance divine, pour protéger, pour garder les siens. La force de ce que Jude dit peut être perdue dans notre traduction, parce que c'est marqué « il peut vous préserver ». Certaines traductions disent « il est capable de vous préserver ». Mais dans le grec, c'est le mot « dunamai ». Et on tire en fait, par exemple, notre mot « dynamite ». Donc ce n'est pas simplement une capacité, mais c'est véritablement la puissance de Dieu à l'œuvre pour garder les siens. Il est bien plus que simplement capable. Il protège. C'est sa puissance qui est à l'œuvre dans la protection, dans la préservation de son peuple. Et Jude veut diriger donc notre attention vers l'espérance qui est la nôtre en tant que croyant. Parce que nos besoins sont si nombreux, les difficultés dans notre vie chrétienne sont parfois tellement écrasantes, notre faiblesse est tellement présente. Il ne faut rien de moins que la puissance de Dieu pour nous préserver. Nous sommes non seulement incapables, totalement incapables de nous sauver nous-mêmes, nous sommes aussi totalement incapables de nous garder nous-mêmes avec nos propres forces. Si cela dépendait de nous, si Dieu cessait de nous préserver, on serait perdu. Mais Dieu préserve. Il a la dynamite, la force, la puissance, et il préserve les siens. Et c'est un réconfort, un soulagement. Nous n'abandonnerons pas. L'enfant de Dieu n'abandonnera pas parce que Dieu ne nous lâchera pas. Il a la dynamite, la puissance pour nous garder. Mais je le précise à celui qui peut vous préserver de toute chute. Il fait référence à l'Ancien Testament, au psaume 121 par exemple, où le psalmiste ne cesse de répéter que l'Éternel est celui qui te garde. Et au verset 3 de ce psaume 121, il dit « Et il ne permettra point que ton pied chancelle ». Jude dit que Dieu nous préserve de toute chute. Il est crucial pour nous de savoir, de réaliser à quel point la situation dans ce monde est glissante. Aucun de nous ne devrait penser que nous sommes à l'abri des faux pas, des trébuchements, des chutes qui nous menacent de tous les côtés dans notre vie chrétienne. Ne sous-estimons pas ce redoutable trio qui est composé du monde, de la chair et du diable. Comment allons-nous arriver jusqu'à la fin ? Comment allons-nous maintenir notre emprise sur le Seigneur Jésus-Christ quand on sait qu'on n'est pas assez fort pour le faire ? Et Jude nous dit, Dieu nous préserve. Dieu nous préserve. Il veille à nous amener jusqu'à la demeure éternelle. Nous ne pourrons jamais retourner en arrière. On a chanté tout à l'heure ce cantique 349 de Martin Luther, la deuxième strophe commence « Seuls, nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. » Seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais la description que Jude nous donne de Dieu qui est puissant et fort pour nous garder, nous préserver, cette description a pour but de fortifier le croyant dans sa marche quotidienne avec le Seigneur, dans ce pèlerinage à travers ce monde rebelle où nous sommes tellement conscients des tentations, de notre faiblesse, de notre tendance à chuter. Un commentateur écrit « Le doute et l'anxiété sont des compagnons constants de notre pèlerinage terrestre. Nous nous préoccupons de notre santé, de l'argent, de nos enfants, de notre travail. » Dans les moments de sobriété, peut-être, nous devenons anxieux de la mort. Dieu ne promet pas d'enlever ses soucis, mais il nous enlève notre plus grand souci, savoir où nous passerons l'éternité. Le véritable croyant ira jusqu'au bout, parce que Dieu le préserve de toute chute. Il l'empêche de retourner en arrière. Nous sommes en route vers notre promise, vers la terre promise, la nouvelle, non pas grâce à notre propre capacité pour aller jusqu'au bout, mais à cause de Dieu qui nous préserve. Est-ce que nous le voyons ? Est-ce que nous croyons cela ? Quand nous réalisons que Dieu a la force, a la puissance et qu'il préserve les siens, nos vies vont le manifester dans la joie, dans la paix, dans l'adoration. dans la reconnaissance. Paul écrit comment cette anticipation devrait transformer toute notre vie, toute notre façon de voir, même les difficultés. En 2 Corinthiens 4, verset 17, et même les versets avant et les versets après. Mais 2 Corinthiens 4, verset 17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Même nos afflictions présentes, même cela, c'est entre les mains de Dieu. Et il l'utilise pour nous faire avancer. Jude veut que nous fixions notre regard spirituel en attribuant la gloire à Dieu, à celui qui préserve les siens de toute chute et qui les amène jusqu'à la gloire éternelle. Et quand Jude dit qu'il a la puissance de nous garder de toute chute, il ne dit pas que le chrétien ne pêche plus, mais que Dieu le garde pour qu'il ne perde pas son salut. Alors comment Dieu préserve-t-il les enfants? Et là, je m'appuie sur ce livre de John Benton qui cite quelques exemples, quelques moyens parmi les plus utilisés. Dieu peut utiliser toutes sortes de moyens, mais les moyens les plus utilisés sont d'abord sa parole, que ce soit dans la lecture personnelle ou à l'écoute d'une prédication. Dieu parfois va s'adresser à nous personnellement. Et cette parole va venir toucher et nous encourager. C'est aussi par son esprit, et la plupart du temps, bien sûr, l'esprit de Dieu est associé à la parole de Dieu. C'est lui qui va appliquer sa parole dans nos cœurs. Parfois, nous sommes dans la détresse et nous ne savons même pas comment prier. Et parfois, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de soupirer, c'est de dire « Mais Seigneur !» Et on ne sait même pas pourquoi et quoi dire. Et l'Esprit de Dieu vient et il nous donne la paix, il nous donne la force de persévérer. C'est aussi l'Esprit qui produit en nous son fruit et qui nous aide, par exemple, à nous maîtriser. Il y a aussi la providence et la communion des croyants. L'amour des frères et des sœurs sont des motivations pour nous aider à persévérer. Parfois, on a un appel d'un frère ou d'une sœur en Christ ou la visite au bon moment, hein, par hasard. Bien sûr, on sait que le hasard n'existe pas. Mais voilà, Dieu envoie quelqu'un ou fait en sorte que cette personne prend contact avec nous. Et cela est un encouragement. Il y a aussi les anges. Hébreux 1, verset 14, déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On ne sait pas exactement comment ils font. Et on sera sans doute surpris dans la gloire en réalisant quelles ont été leurs interventions. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que Dieu nous préserve de la chute, nous préserve de perdre notre salut en permettant des chutes temporaires. Le Seigneur peut nous laisser tomber dans le péché pour que nous en soyons dégoûtés et que nous ne voulions plus recommencer. Et si nous n'écoutons pas les appels à la repentance, Dieu peut nous discipliner, comme un père discipline ses enfants. Il peut nous envoyer quelqu'un pour nous reprendre, comme il l'a fait par exemple avec David, en envoyant le prophète Nathan. Voilà David, un homme selon le cœur de Dieu, auteur de nombreux psaumes, tombe dans l'adultère. Il essaye de cacher cet adultère, n'y arrive pas, organise la mort du mari de Bathsheba. Et il a fallu l'intervention du prophète Nathan pour dire à David, « David, tu as péché. » Et à la suite de cela, David a pu écrire les psaumes 32 et 51. Et dans le psaume 32, il a pu exprimer le bonheur du salut, quelque chose que l'apôtre Paul va reprendre en Romains chapitre 4. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dieu a suffisamment de puissance pour préserver chacun de ses enfants de la chute, de retomber dans le péché, de perdre leur salut. Et il œuvre en eux pour qu'ils s'éloignent de plus en plus du péché. Quelqu'un peut-être peut dire, je voudrais devenir chrétien, mais je ne suis pas sûr de tenir jusqu'au bout, alors qu'il revienne à ces paroles de Jude. Dieu peut et il est capable, il a la puissance et il préserve. Dieu préserve tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Il les empêche de perdre leur salut. Tous ceux que Dieu sauve en Jésus-Christ sont sauvés jusqu'au bout. Même si le croyant chute, tombe dans le péché, Dieu va le relever. Il ne permettra pas qu'il perde son salut. Il le fera persévérer jusqu'au bout. Dieu a la puissance de garder les siens. Notre préservation jusqu'à la gloire. Deuxième grand point, notre présentation dans la gloire. Jude va plus loin. Enfin, la deuxième partie du verset 24. À celui qui peut vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Dieu nous préserve jusqu'à la gloire, il nous garde jusqu'à la gloire, mais il nous fait aussi paraître, il nous fera paraître dans la gloire. Et ce verbe qui est traduit par « faire paraître » veut dire « faire tenir debout ». Dieu nous préserve de toute chute et il nous fera tenir debout devant sa gloire. Et c'est plus que simplement finir la course. On peut comparer la vie chrétienne à une course de longue distance. Et parfois, si vous suivez les Jeux Olympiques ou si vous assistez au bord du terrain, vous voyez certains athlètes qui, une fois la ligne d'arrivée franchie, ils s'écroulent parce qu'ils ont tout donné. Et parfois, de notre point de vue, on a l'impression qu'on donne tout. On va terminer notre vie chrétienne en s'écroulant à la fin, en arrivant, en traversant la ligne d'arrivée. Mais cette image n'est pas la bonne. La fin de notre course est différente. Celui qui, aujourd'hui, nous garde de toute chute pour nous amener dans la gloire est aussi celui qui nous fera tenir debout dans sa gloire. Nous allons être présentés devant sa gloire, non pas comme ceux qui ont eu du mal à traverser la ligne d'arrivée, mais comme ceux qui sont arrivés à la fin de manière triomphale, à cause de la grâce toute-puissante de celui qui nous a préservés, à cause de son œuvre de perfectionnement dans nos vies. Et l'image ici, c'est celle d'un trophée qui a été poli, qui brille, qui est présenté comme récompense. Dieu nous fera paraître devant sa gloire irréprochable. Ce terme irréprochable vient du langage du temple, du système des sacrifices dans l'Ancien Testament, où ce qui était apporté comme sacrifice devait être irréprochable, sans défaut, sans tache. Et dans le Nouveau Testament, ce terme va aussi inclure la perfection morale. Au jour du jugement, nous nous tiendrons debout en Christ, pardonnés, justifiés, c'est-à-dire déclarés, considérés justes à cause des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Et Jude nous dit que nous nous tiendrons debout devant sa gloire, glorifiés. Son œuvre en nous sera terminée. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, quand il parle de l'Église, il écrit ceci, Éphésiens 5, à partir du verset 25, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Éphésiens 5, à partir du verset 25. Et donc, c'est la dernière image, non seulement de notre justification, aussi glorieuse soit-elle, la justification, c'est le cœur de l'Évangile, mais c'est aussi la dernière image de notre croissance dans la grâce, puisque nous serons arrivés dans la gloire. Notre glorification, c'est là où nous serons libérés de tout péché, de toute présence du péché. Nous serons rendus parfaits, corps et âme. Il n'y aura plus de souffrance, plus de lutte, plus aucune imperfection. Ceux que Dieu a amenés à la nouvelle naissance par l'œuvre de son Saint-Esprit, il va les amener à la perfection dans la gloire. Et c'est quelque chose de remarquable quand on y pense, parce qu'on sait tout le travail qui reste à faire pour que nous ressemblions à l'image du Seigneur Jésus. Mais l'apôtre Paul écrit par exemple en Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, Paul parle de cette perfection dans la gloire comme faisant partie d'une chaîne incassable du salut qui a commencé avant même la fondation du monde. Romains 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Si nous faisons partie de ceux en qui l'Esprit-Saint a accompli le miracle de la nouvelle naissance, de telle sorte que nous sommes venus à Christ dans la repentance et la foi, alors nous faisons aussi partie de ceux en qui l'Esprit-Saint ne cessera d'œuvrer jusqu'à ce que nous soyons présentés devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Mais avant ce jour où il ne fera paraître devant sa gloire, Dieu ne cessera d'être à l'œuvre dans nos vies pour nous transformer à l'image de son Fils. Et nous pouvons avancer dans notre vie chrétienne en sachant que Dieu fait son œuvre, que Dieu est à l'œuvre et qu'il la fera jusqu'au bout, comme ce passage en Philippiens 1 nous le rappelle. Jude nous dit que cette présentation dans la gloire se fera dans l'allégresse. C'est un langage superlatif qui veut dire débordant de joie, une exultation jubilatoire. On peut utiliser ce terme, par exemple, quand on parle d'une foule en liesse. Et c'est le langage qui est utilisé à la fin de l'histoire, quand le peuple de Dieu est réuni dans la gloire. Apocalypse 19, versets 7 et 8, nous lisons « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Ce jour-là, quand tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu sera réuni, parfait, transformé, glorifié, irréprochable, qu'ils seront dans ce lieu pur et saint où il n'y a plus aucune trace du péché. On verra le peuple de Dieu en liesse, exultant, rempli de joie, d'une joie parfaite. Cette joie triomphante ne sera pas seulement notre joie, ce sera aussi la joie du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans l'annonce de la venue du Messie dans la prophétie d'Ésaïe 53, verset 11, il est écrit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Une partie de la récompense dans la gloire que le Seigneur Jésus-Christ a anticipée à la suite de son œuvre sur la croix de Golgotha, c'était le peuple. C'était d'être réuni avec ce peuple que le Père lui avait donné et pour lequel il donnait sa vie. Hébreux 12, verset 2, nous dit ceci, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Le Seigneur Jésus-Christ a enduré les horreurs de Golgotha en vue de la joie qui lui était réservée. Et lorsque ce jour viendra, ce dernier jour, le Seigneur se réjouira avec son peuple, qui sera finalement avec lui, irréprochable. Et alors, si nous passons un moment de difficulté, de lassitude, d'épuisement dans notre vie spirituelle, si nous sommes trop conscients de nos manquements, des défauts qui sont encore présents en nous, rappelons-nous ce que Jude dit ici. Non seulement serons-nous présentés irréprochables devant sa gloire, mais nous ferons la joie du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a tout donné pour que nous soyons avec lui. Et il sera réjoui, heureux de nous avoir auprès de lui. Dans un de ses sermons, un puritain du nom de Thomas Goodwin a cité Jean 14, verset 3, où Jésus dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et ce puritain dit ceci, « La raison donnée par Jésus révèle toute son affection. C'est comme s'il avait dit, « La vérité, c'est que je ne peux pas vivre sans vous. » Je ne serai jamais tranquille jusqu'à ce que je vous aie là où je suis, pour que nous ne soyons plus jamais séparés. Le ciel ne me retiendra pas, ni la compagnie de mon Père, si je ne vous ai pas avec moi. Mon cœur est tellement attaché à vous, et si je suis glorifié, vous le serez aussi. » Est-ce que nous nous voyons de cette façon-là, comme ceux que le Seigneur Jésus-Christ anticipe d'avoir avec lui, dans sa présence, pour toujours et avec une grande joie? Quand on sait que cette réjouissance va avoir lieu lorsque nous entrerons dans la gloire, dans la demeure que le Fils a préparée pour les siens, cela devrait nous aider à voir notre court pèlerinage sur terre d'une autre manière. Nous sommes préservés jusqu'à la gloire, nous serons présentés dans la gloire, troisième grand point. Tout cela est pour la louange de sa gloire. En lisant ce passage et en regardant d'autres passages, nous sommes émerveillés devant la sécurité qui est promise à chaque croyant et la bénédiction pour chaque croyant. Et il est vrai que il est juste pour nous d'être émerveillés, de voir que Dieu préserve les siens et qu'il les présentera dans la gloire. Mais Jude veut que nous sachions qu'il ne s'agit pas que de nous, mais qu'il s'agit surtout de Dieu. Jude veut que nous adorions, que nous célébrions les louanges de l'auteur de ces choses, de celui qui a la puissance, qui nous préserve, qui nous garde et qui va nous amener, nous présenter dans sa gloire. Pourquoi Dieu nous préserve-t-il jusqu'à la gloire? Pourquoi est-ce qu'il va nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse? Il le fait pour sa seule gloire. Le verset 25 commence, « À Dieu seul, notre Sauveur. » À Dieu seul, au seul vrai Dieu, la gloire est Dieu. Ce seul vrai Dieu vivant est vrai, est notre Sauveur. Ce terme Sauveur est surtout utilisé dans le Nouveau Testament pour la personne de Jésus-Christ. Mais ici et dans quelques autres endroits, c'est le seul Dieu qui est notre Sauveur. Le salut de son peuple, la préservation jusqu'à la gloire, la présentation dans la gloire, tout cela est le déroulement d'un plan, l'accomplissement de ce plan qui a été imaginé dans l'éternité passée par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. À Dieu seul, notre Sauveur, soit la gloire. Et Jude continue avec une liste d'attributs. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Alors dans l'original, il n'y a pas de verbe. Notre traduction rajoute « soit » pour que la phrase soit compréhensible en français. Dans l'original, il n'y a pas de verbe. Mais pour beaucoup de commentateurs, il serait préférable qu'on mette le verbe au présent. « Sont ». À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, son gloire, majesté, force et puissance. Parce que ce n'est pas une prière pour que Dieu obtienne, que Dieu reçoive quelque chose qu'il ne possède pas déjà. C'est une déclaration de qui il est, de ses attributs. Un commentateur explique que le but d'une doxologie n'est pas d'offrir à Dieu quelque chose qu'il ne possède pas déjà, mais c'est de reconnaître dans l'adoration la perfection qui lui revient de droit. Nous n'ajoutons rien à Dieu. Nous le décrivons simplement. Et donc c'est une description de la plus haute louange et adoration pour ce que Dieu est en lui-même. Même si personne ne reconnaît ou n'estime la gloire de Dieu, elle lui appartient toujours, parce qu'il est Dieu. Et ce n'est pas simplement une liste banale d'attributs. Non, ces attributs ont été choisis avec soin pour souligner la grandeur, la souveraineté de Dieu, et en particulier pour ceux à qui Jude s'adresse. Jude parle de la gloire de Dieu. C'est l'idée de cette lumière aveuglante de sa présence. C'est aussi l'idée de poids. Le terme gloire traduit l'idée de poids, d'importance, en contraste avec tout ce qui est léger et temporaire dans l'univers. Dieu est là, de lui-même. Il est l'essence même de la substance. Il existe de lui-même. Tout le reste a été créé. Dieu existe. Il est là. Il y a aussi l'idée de lumière aveuglante, de beauté infinie de son être, de splendeur de sa personne. Rappelez-vous les Israélites qui ne pouvaient voir s'approcher de la montagne de Sinaï, qui ne pouvaient voir tellement la gloire était grande, même quand plus tard, quand Moïse est descendu de la montagne, il a recouvert sa tête d'un voile parce que sa tête rayonnait. C'était trop grand, trop glorieux pour les Israélites. Jude parle ensuite de majesté. Ce terme décrit la transcendance, la supériorité impressionnante de Dieu, sa grandeur, sa prééminence au-dessus de toute chose. Et quand on rajoute cela à la gloire de Dieu, on commence à avoir une idée de la grandeur écrasante de Dieu. Qui il est en lui-même, en sa personne, est une raison suffisante pour une louange, une adoration éternelle. Jude rajoute l'attribut de force, qui est parfois traduit par domination. Et là, cela fait référence au règne souverain de Dieu sur toute chose. Une souveraineté puissante qui œuvre dans l'univers, une souveraineté suffisamment puissante pour accomplir le salut de son peuple et pour faire toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et puis il y a le terme de puissance qui est parfois traduit par autorité. C'est l'exercice de cette souveraineté, de cette domination. Dieu agit dans sa souveraineté. Il exerce son droit de régner. Rien ne se passe dans l'Église à laquelle Jude s'adresse ou dans l'Église d'aujourd'hui. Et rien ne se passe dans ce monde, dans le monde au 1er siècle ou dans le monde au 21e siècle. Rien ne se passe qui serait en dehors de la volonté de Dieu. Rien ne se passe qui ne pourrait pas être pour la gloire de Dieu. Dieu accomplit son œuvre dans ce monde et personne ne pourra l'en empêcher. Et ces attributs-là, en particulier, sont à la fois pertinents et réconfortants pour les lecteurs à qui Jude s'adresse. Ils avaient besoin d'être rassurés qu'ils arriveraient bien à leur demeure éternelle, cette demeure préparée par le Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui préserve ? Il n'est autre que Dieu à qui sont la gloire, la majesté, la force, domination, ou la puissance, l'autorité. En clair, nous sommes entre de très bonnes mains. Et Jude dit que ces attributs sont dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. On a le passé, le présent et le futur qui se rejoignent dans la consommation de la manifestation de la gloire de Dieu, dans le salut de son peuple. Toute l'histoire, et même avant l'histoire, et même après que l'histoire soit terminée, toute l'histoire se déroule dans le but d'apporter à Dieu la gloire. Et cette gloire se manifeste, dit Jude, par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Pierre utilise un langage similaire en 1 Pierre 4, verset 11. Il dit « Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » La gloire de Dieu se manifeste à nous par Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons appris que Dieu est sauveur. C'est aussi de cette manière-là que le livre de l'Apocalypse décrit la gloire de Dieu, Apocalypse 5, verset 13. « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » L'une des conclusions préférées quand on lit une histoire, c'est « Et ils vécurent heureux pour toujours. » Il y a une raison pour laquelle ces histoires qui terminent ainsi touchent le cœur humain. Parce que dans notre existence sur terre, on sait qu'il n'y a pas le bonheur pour toujours. Mais ces histoires nous touchent beaucoup parce que l'être humain a été créé pour cette fin de bonheur pour toujours. Il y a chez l'être humain un sentiment interne de désirer connaître une telle fin, être heureux pour toujours. Et Dieu a fait en Christ que cela soit une réalité. Cette fin existe pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le bonheur éternel, le bonheur sans fin dans le ciel, sera le bonheur éternel d'être dans la présence de la gloire de Dieu pour toujours. Et le dernier mot de cette lettre, c'est le mot « Amen ». C'est une invitation à affirmer ce qui vient d'être dit. C'est une réponse, un assentiment de tout notre cœur. Après la description magnifique de Jude, de Dieu à qui toute gloire est due, et les raisons pour lesquelles toute gloire lui est due. On a l'affirmation à la fois du peuple de Dieu dans sa totalité, mais aussi l'affirmation personnelle de chaque croyant, de la vérité de la gloire de Dieu dans le salut et de la préservation de son peuple. Et l'enfant, tout le peuple de Dieu ne pourra que dire et redire « Amen » à cette description que Jude nous donne. Et quand un incroyant entend cet « Amen » après une telle description de Dieu, la seule réponse acceptable, c'est qu'il vienne à Jésus-Christ dans la repentance et la foi, afin de découvrir lui aussi le salut, la préservation que Dieu accorde à ceux qui viennent à lui par la foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et l'appel est donc encore lancé aujourd'hui, de venir à Christ, afin de connaître la sécurité, la préservation qui appartiennent au peuple de Dieu, et que Jude nous rappelle ici. Pour nous, pour ceux qui sont déjà à Christ, rappelons-nous de ces réalités. Joignons-nous aux anges pour adorer le seul vrai Dieu, notre Sauveur. Ajoutons notre Amen en attribuant à Dieu toute la gloire pour le salut, la préservation de son peuple et pour la grâce qu'il nous a accordée pour faire partie de ce peuple. Jude avait commencé sa lettre en disant combien il désirait vivement leur écrire au sujet de notre salut commun. Et dans cette doxologie, il réussit à aborder ce thème. Voilà notre salut commun. Dieu, qui nous a sauvés par la foi en Christ, nous préserve jusqu'à la gloire. Il va nous présenter, il va nous faire paraître devant sa gloire, avec allégresse, dans une très grande joie. Et il fait tout cela pour la louange de sa gloire, pour toujours. Comme les réformateurs l'ont dit, soli Deo gloria. À Dieu seul soit la gloire. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.